France Culture.
Avec moi, avant que ça commence. Comme on remonte, on commence le journal en 77. Ça dépend de l'âge qu'auraient les gens, mais je leur dirais, allez, moi je vais rembobiner. Rembobine aussi, toi. Rembobine-toi un petit peu.
En ce moment, au théâtre de l'Atelier à Paris, on peut voir Vincent Dedienne dans l'adaptation du journal de Jean-Luc Lagarce, Il ne m'est jamais rien arrivé à 19h, et dans une pièce du même auteur, Juste la fin du monde à 21h. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Anaïs Isebaer, Anouk Minaudier et Jules Barbier, à qui on souhaite un très joyeux anniversaire. À la technique ce soir, Anthony Thomasson, Jean-Baptiste et Tchepare Borde, Pierre Monteil et Alex Dang. Comme un samedi, réalisé par Alexandre Fougeron.
France Culture.
Amateurs de frissons et de cinéma, le Festival international du film fantastique de Gérard May vous donne rendez-vous pour 5 jours intenses dédiés au meilleur du cinéma de genre. Au programme, une masterclass exceptionnelle du réalisateur et scénariste Ty West, un focus inédit de 3 longs-métrages horrifiques venus du Vietnam, sans oublier la compétition officielle internationale. Le Festival de Gérard May, du 29 janvier au 2 février. Un partenariat France Culture.
Vous m'avez élu en mai dernier pour que nous construisions ensemble une nouvelle France.
Il y a 30 ans, en 1995, Jacques Chirac devenait le 5e président de la 5e République.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais Chirac était-il vraiment à l'aise dans ses habits successifs de ministre, premier ministre, maire de Paris et président de la République? Finalement, qu'est-ce qui faisait courir Chirac?
Je souhaite que chacun se reprenne.
Salle des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
20h et 6 secondes. 6 secondes perdues pour mauvais genre. Mais non, François Angelier, gardez l'antenne toute la vie.
Oui, je la garde. Je m'y cramponne. Merci, cher ami. Merci à vous. Et puis, on se retrouve samedi prochain.
Avec
je
joie.
Vous souhaite une merveilleuse soirée.
Tout pareil.
Debout les morts, Jacques Péricard. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Charles Baudelaire. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui délaissera en ce samedi sa fascination pour la mort et les mille et une façons de la donner et de la recevoir pour s'intéresser aux soins des défunts, du corps des défunts et de toutes les formes de reliquats organiques, de la peau des tambours aux momies, à l'art et au rituel de l'inhumation et de l'accompagnement des trépassés. Pour évoquer ces autres mondes avec nous ce soir, proposé par Céline Duchesnel, Juliette Casse, thanatologue et Laure Cadeau, restauratrice de matériaux organiques. L'almanach de l'étrange, bien sûr, en clôture d'émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui depuis quelques décennies eh bien, se régale des mille et une manières, je le répète, de donner la mort, de défourailler, de poignarder, d'étrangler, de projeter dans le feu, on invente tout ce qui est possible, on s'en réjouit, mais ce soir on va être un peu plus sérieux puisqu'on aura affaire eh bien, au corps des défunts et surtout à la manière de les traiter, de les considérer, de les respecter, à toute cette culture funéraire que nous connaissons tous, bien évidemment, et qui va être incarné au plateau de Mauvais genre par Juliette Casse, que je salue. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Juliette Casse, Céline Duchesnel, c'est votre émission. Comment peut-on la présenter?
Oh, mais s'il fallait présenter Juliette, moi je crois que la première fois que j'ai découvert en tout cas son univers, c'est, je dois dire, grâce aux réseaux sociaux et grâce à un site qu'elle a créé en 2017 qui s'appelle le Bizarreum, où c'est, on pourrait dire, l'actualité des morts. Donc tout ce qui se passe autour de la mort, autour des rites funéraires. Et évidemment, eh bien, ça, le site m'a tapé dans l'œil et j'ai commencé à découvrir l'univers de Juliette Casse à ce moment-là.
Le Bizarreum. Pourtant, vous êtes quand même une professionnelle, je dirais, de tout ce qui touche le funéraire et la mort. C'est pas bizarre pour vous, c'est. Mais Bizarreum, c'est quoi? C'est l'espèce de grand musée imaginaire des défunts?
C'est ça, en fait. C'est la contraction de Bizarre et de Muséum, en fait. Puisqu'il y a quelques années, avant 2017, j'étais très seule dans mon univers et j'avais envie de le partager et de trouver d'autres gens, peut-être, comme moi. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça sur Internet et à développer un univers qui m'est propre.
Très bien, bah bienvenue à Mauvais Genre. De même que je salue Laure Cadeau, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes avec nous par la voix des airs, puisque vous n'êtes pas en plateau, mais grâce à Laurent Polleret, magicien des ondes, vous êtes présente. Alors, Céline Duchesnel, Laure Cadeau, j'ai employé l'expression de restauratrice de matériaux organiques. Merveilleuse expression, et qui touche... toutes sortes d'objets, puisque ce sont des objets.
Ou des individus. Alors, moi, j'aime bien dire restauratrice de momies, parce que tout de suite, évidemment, il y a un imaginaire qui fait que on peut pas s'empêcher de penser tout à coup à Laure Cadeau dans une salle, en tête à tête avec une momie. Donc, on va savoir un petit peu comment ça se passe précisément. Laure Cadeau, je dois dire que je l'ai découverte grâce à la revue 21. Et oui. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Catherine de Copé grâce à un article de Pauline Gabinari qui s'intitulait, en tout cas l'accroche, c'était « Petite, j'avais une image glaciale de la mort » et je me suis dit « Tiens, ça c'est peut-être pour nous un mauvais genre ».
Et de fait, ça l'est. Donc bienvenue Laure Cadeau et puis on évoquera donc vos activités et votre parcours tout au long de l'émission. Je resalue Céline Duchesnel.
Grâce à qui, moi aussi, je vous resalue, François.
Nous sommes en excellente compagnie. Place maintenant à une évocation funéraire et morbide, signée Laurent Polleret. Des morts selon Laurent Polleret, bravo, très réussi. Juliette Caz, qu'avez-vous entendu dans ce que vient de diffuser notre réalisateur? Vous entendez quoi? Les chants des morts, les cœurs qui battent la chamade, les ondes?
Un peu tout à la fois, mais ça donne envie de faire une introspection, je trouve. C'est très agréable, ça invite au voyage.
Et Laure Cadeau, vous avez aussi réagi de cette manière?
Oui, c'est une ambiance un peu transe qui invite à la concentration, à la méditation.
Très bien, méditons donc tout au long de cette émission sur le monde funéraire, le monde des morts et de ceux qui s'en préoccupent au quotidien. Alors on va peut-être commencer, Céline, par le parcours de nos deux invités, puisque ça n'est pas n'importe quel métier, ça n'est pas n'importe quel univers professionnel et on n'y vient pas là par hasard. On pourrait peut-être commencer à demander à Juliette Caz comment elle en est arrivée là.
Très bonne idée, François. Alors Juliette...
Eh bien, moi, ça remonte à ma plus tendre enfance. Vraiment très, très tôt, j'ai manifesté un intérêt poussé pour ces questions-là, enfin pour la mort, les morts. Mais j'ai vraiment eu le déclic en voyant mes premières momies, d'abord dans des livres, puis dans des musées, ce qui ne m'effrayait pas. Pour moi, c'était des voyageurs du temps. Enfin, en tout cas, mes parents m'ont fait comprendre ça assez tôt. Et en fait, ça m'a jamais quitté, cette passion. Donc, au fur et à mesure de mes expériences et de mes envies, eh bien, j'ai continué à rôder, on va dire, autour du sujet.
Mais vous disiez déjà que petite fille, en tout cas, c'est ce que je lis dans votre biographie, vous aviez envie de mettre du rouge à lèvres sur les morts.
Tout à fait, et c'est ce que je fais. Mais oui, mes parents ne savaient pas pourquoi je parlais de ça, puisque je viens pas du tout d'un milieu funéraire à la base, mais c'est quelque chose que j'ai pu dire, en effet, assez petite. Et c'est drôle, parce que ça m'a toujours un peu suivi, on va dire, cette envie de rendre les morts, entre guillemets, beaux.
Voilà. Mais alors, pardon, oula, ça, je suis menacée aussi. Juliette Casse, quelle a été votre approche matérielle du monde des morts? Est-ce que ça a été la vision d'un défunt familial, par exemple? Moi, je sais que c'est mon cas, par exemple. Au retour d'une distribution des prix, le cadavre d'un grand-père qui avait brusquement décédé. Est-ce que c'est une représentation filmée, un tableau? Est-ce que c'est un objet? Quel est un petit peu l'aspect directement matériel?
Alors, j'ai eu la chance de ne pas voir de mort avant un certain nombre d'années, donc ça n'a pas été un déclencheur. Comme je le disais, il y avait les momies dans les musées, les têtes réduites aussi, à l'époque au musée Guimet de Lyon, ça m'a beaucoup inspirée. Mais surtout, moi, ça a été par le biais des films, où je voyais des momies, et des momies méchantes, et je me disais, quand même, elles ont plutôt l'air sympathiques. Et c'est quelque chose qui a beaucoup influencé mon univers, en tout cas.
Leur cadeau, de votre côté, quel a été l'apprentissage?
Alors, vous parliez qu'il n'y a pas de hasard. Il y en a quand même un peu, parce que restauratrice de momies, c'est pas une vocation enfantine. C'est pas un métier qui existe vraiment, d'ailleurs, et qui tend à exister aujourd'hui, parce que, quelque part, je me suis fabriqué mon métier. Moi, ma rencontre première qui a vraiment lancé tout ce travail qui m'anime depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment une visite au musée de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, où j'ai découvert les écorchés de Fragonard, donc qui sont des préparations anatomiques du XVIIIe siècle absolument spectaculaires, qui étaient dans des positions extrêmement théâtrales, avec des yeux globuleux en verre, très très expressifs, et ça a été une espèce de choc, de temps d'arrêt, de stupéfaction. Je crois que c'est vraiment le terme, de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et de conscientiser que j'avais affaire à des humains sacrément transformés, et partant de là, de partir dans un questionnement qui m'a pas lâché depuis, et qui m'a amené à exercer aujourd'hui ce métier de restauratrice de restes humains, effectivement, on peut dire ça, et à découvrir aussi que ça m'a fait revoir un peu mon rapport à la mort, de comprendre aussi quel était, moi, mon positionnement, un peu comme Juliette, de revisiter mon rapport enfantin à tout ça et mes difficultés aussi par rapport à ces univers qui, à la fois, me fascinaient et me terrifiaient. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui est arrivé un peu tard et qui, quelque part, m'a aidé aussi à remettre des mots sur mon rapport aux morts.
Oui, parce que leur cadeau, comme je citais l'accroche de cet article, petite, j'avais une image glaciale de la mort. Ce que vous racontez, c'est que enfant, vous aviez extrêmement peur de la décomposition des corps, ce qui peut paraître étonnant. En tout cas, on met ça en parallèle maintenant avec le métier que vous faites aujourd'hui. Alors évidemment, vous n'êtes pas dans la décomposition des corps, mais vous êtes de manière très physique auprès des morts.
Alors oui, je suis de manière très concrète et très physique au contact des morts, mais pas n'importe quelle mort. Moi, les morts sur lesquelles je travaille, c'est des morts de musée, donc c'est des morts présentables, on va dire, des morts secs, des morts qui ne se décomposent plus et qui sont rentrés en collection justement parce qu'ils avaient cette particularité absolument fascinante d'avoir été préservés. Enfin, je pense aux momies, mais aux ossements également, qui sont secs, évidemment, par essence. Mais voilà, c'est un rapport matériel complètement différent à la mort, et c'est plus du tout cet imaginaire des insectes, des vers qui viennent se repaître des chairs des défunts.
Mais leur cadeau, quand je vous ai évoqué comme restauratrice de matériaux organiques, ça va beaucoup, beaucoup plus dans une sorte de dimension, je dirais presque, de matériaux biologiques. Quand on vous donne à réparer une peau de tambour qui est d'origine animale, c'est aussi dans votre champ de travail, aussi bien une momie. Entre les deux, il y a toute une série de degrés, d'objets différents. C'est plus un rapport à l'organisme qu'un rapport à la mort, peut-être?
Alors, un peu les deux, je dirais, parce que ce rapport à l'organique, c'est ma spécialisation de départ, qui était vraiment mon intérêt, de travailler sur des matériaux vivants, des matériaux évolutifs. Et puis la question des restes humains est venue un peu après, mais en fait les deux sont complémentaires quelque part. Et j'ai besoin d'avoir cet équilibre entre le travail sur des objets et le travail sur des individus, parce que comme tout métier où on est en contact comme ça avec des corps, alors je pense à la médecine légale évidemment, aux pompes funèbres, il y a toujours une espèce d'habitude professionnelle qui vient s'installer et une certaine distance aussi. Il y a toujours beaucoup de blagues un peu macabres dans ces milieux-là qui sont assez drôles d'ailleurs la plupart du temps. Et quelque part, moi, ma démarche par rapport à ce que je fais dans les musées, c'est d'essayer de réhumaniser ces collections, ces individus, et d'avoir pour ça ce besoin d'un va-et-vient entre l'objet et le sujet.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Mauvais Genre qui ce soir s'intéresse à l'univers des morts et au monde funéraire, Céline Duchesnay.
Alors justement, Juliette Case, vous avez un diplôme de conseillère funéraire et vous êtes conseillère funéraire et maîtresse de cérémonie. Et pendant 3 ans, de 2020 à 2023, vous avez été aussi au contact des morts, un autre contact que celui de l'Orcado, puisque pour le coup, c'était des morts récents.
Oui, tout à fait. J'ai passé ce diplôme-là pour être dans les clous, on va dire, en termes de connaissances et d'habilitation professionnelle. Mais moi, j'ai trouvé ma passion dans ce milieu-là, dans le transport de corps et dans la préparation des corps et leur admission au sein des chambres funéraires, où là, on a un rapport au corps récent. Comme je dis souvent, il y a les vieux morts en musée, que je croise aussi dans d'autres facettes de mon travail. Et les morts récents, là, pour le coup, que je suis de A à Z, du moment où je vais les chercher au moment où ils partent. Donc il y a un rapport en effet très différent. Et pendant 3 ans, oui, j'ai pu exercer aussi bien en milieu rural que dans une grande ville, dans une grosse chambre funéraire avec beaucoup d'admissions par semaine.
Mais alors, c'est toute la dimension rituelle, est-ce qu'elle est extrêmement prescrite ou est-ce que vous pouvez intervenir j'imagine la famille du défunt donne des directions. Est-ce que vous êtes toujours là pour les appliquer, les recevoir? Ça peut être parfois un peu singulier. Comment vivez-vous un petit peu cette dimension rituelle et cérémonielle?
En fait, c'est très intéressant parce que de façon assez récurrente, j'entends que le rite funéraire n'existe plus en France. Ça, c'est une idée très développée. À chaque Toussaint, j'entends parler de ça. Et en fait, on se rend compte quand on est professionnel, du moins dans des grandes villes, mais pas que, quand on est directement au contact des défunts, on se rend compte que le rite funéraire commence dès la prise en charge. Et en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre, loin de ce préjugé des rites qui n'existent pas, ou plus en tout cas. On a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans les rites existants, la perte de la communauté. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rite. Hein. Et nous, on le voit directement lors de la prise en charge des défunts. Des familles qui ont des exigences aussi pour que le mort parte bien. L'objectif, nous, dans notre travail, quand on est confronté à plein de cultures différentes, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas de mauvaise mort, parce qu'on sait, quand il y a un rapport, par exemple, aux ancêtres, que ça peut être très préjudiciable. Donc, notre travail, c'est aussi, j'estime, de connaître ces rites, d'en apprendre plus pour éviter la mauvaise mort.
Et l'évolution du rituel va dans quelle direction? Est-ce que vers plus de simplicité, au contraire, les choses se complexifient, c'est de plus en plus subjectif? Quelle est l'évolution un petit peu du...
Eh bien, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un besoin de réinventer les rites. C'est ce qu'on entend beaucoup. Or, il y a une différence entre le rite et le rituel. Le rite, il faut une communauté, il faut être plusieurs, des personnes qui comprennent les gestes de façon tacite, par le biais de leur religion ou par le biais de leur culture. Ils se reconnaissent là-dedans et donc ils peuvent faire le deuil ensemble. Le rituel, ça peut être quelque chose de personnalisé, plutôt à l'échelle individuelle. Et donc, on entend beaucoup parler de cette réinvention des rites, chose que je prends avec beaucoup de pincettes, puisque souvent, quand on veut réinventer quelque chose, il y a aussi un aspect mercantile derrière. À quel point les pompes funèbres vont peut-être rendre cette nécessité de réinventer le rite mercantile, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens évidemment qui ne se retrouvent plus dans les rites. Ils sont en perte de communauté, ils vivent leur deuil de façon individuelle, et donc à ce moment-là, c'est là que c'est très difficile, parce que quand on est accompagné, c'est quand même plus simple.
Oui. Laure Cadeau, vous, est-ce que vous êtes confrontée, alors on sait qu'avec vous on est dans un temps très lointain, mais est-ce que vous êtes confrontée vous aussi, quand vous êtes face à une momie par exemple, au rituel? Est-ce que vous en voyez des traces?
Alors oui, des traces, on en voit. Alors après, dans les musées, on a des corps issus de contextes funéraires, donc forcément, on les conserve pour documenter ces différents aspects dans différentes cultures, donc les momies égyptiennes, bien sûr, mais des corps qu'on trouve en Amérique du Sud, par exemple, qui ont été ramenés au 18e, 19e siècle, donc des choses très variées. Et puis, on a aussi des éléments de corps qui ne relèvent pas du domaine funéraire, qui sont plus liés à l'histoire de la médecine, notamment. Je pense à toutes les grandes collections de préparation anatomique dans les conservatoires d'anatomie. Donc, les traces, elles expriment pas tout le funéraire, elles expriment aussi d'autres choses. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir les contemporains, donc les gens qui travaillent avec moi dans les musées, qui vont et viennent voir un peu ce que je fais de temps en temps, et de voir les réactions actuelles par rapport à ces corps. Comment, aujourd'hui, via un certain nombre de polémiques sur les questions des restitutions et du bien fondé de la présence des restes humains dans les musées, les gens se retrouvent à revivre ce lien avec ces défunts et à nouveau à les considérer comme des humains. Donc là, on sent que les attitudes peuvent être très variées. Ça peut être prononcer le nom d'une momie quand on la connaît parce que ça fait partie des rituels égyptiens. Ça peut être un petit moment de recueillement, un petit commentaire, une petite blague pour dédramatiser une tension. Donc, il y a plein de petites choses qui sont pas vraiment des rituels, comme l'expliquait Juliette, mais qui participent un peu de cet environnement autour de ces corps qui continuent à réfléchir et puis à interroger.
Oui, leur cadeau, ce qui est important, c'est quand même de rendre à la momie sa dignité, puisque bon, dans l'histoire occidentale, il y a des moments, je me souviens des moments à momie, vous parlez à un moment, dans l'entretien de 21, il y a les années à relique et les années à momie. Il y a des siècles à momie dans l'histoire, les croisades, par exemple, on a ramené vraiment des momies, j'imagine, en Occident, et puis elles ont servi, elles étaient broyées, elles servaient d'engrais, je crois, ou elles étaient utilisées, mais enfin, disons, détournées de leur... dimension funéraire pour devenir des matériaux utiles. Il y a également la période napoléonienne et tout cela. Donc il y a toute cette déjà cette nécessité de sortir la momie de sa dimension purement objectale. C'est-à-dire ça n'est pas un objet, ça n'est pas une décoration, ça n'est pas une curiosité, c'est une personnalité.
Exactement, et c'est un peu tout l'enjeu de mon travail, et puis pas que du mien d'ailleurs, parce que toute la communauté patrimoniale s'oriente maintenant vers cette quête de dignité pour les collections, enfin, essayer, en tout cas d'essayer de leur montrer un respect plus marqué par rapport à des périodes antérieures où effectivement les momies étaient ramenées comme objets de curiosité, comme souvenirs de voyage. Donc on a comme ça un peu partout dans les musées en France des fragments, des têtes, des pieds, des mains. Donc ça a beaucoup pour l'Égypte, évidemment, mais il y a toujours eu cette fascination pour les restes, pour les fragments, les os qu'on pouvait retrouver à droite, à gauche. Et voilà, donc on se rend compte qu'ils ont été un moment délaissés aussi dans les musées. Hein. Il y a une part de responsabilité aussi par rapport à ces collections. Où on arrive à un moment, je dirais, depuis une vingtaine d'années, où on a un regard rétrospectif sur les pratiques anciennes, ce qui est aussi, moi, mon cas quand je travaille sur des collections. J'observe des gestes, des traitements, des bricolages, des réparations un petit peu baroques, on va dire. qui font réfléchir sur ce qu'on s'est permis de faire et puis surtout sur ce que ça dit de la considération qu'on avait pour ces individus qui n'étaient pas du tout une reconnaissance d'humanité, on va dire. Donc ça fait réfléchir aussi sur l'évolution des mentalités, l'évolution des sensibilités, puis un petit peu l'histoire du goût quelque part.
Et d'ailleurs, leur cadeau, vous, quand vous parlez donc d'une momie, vous parlez d'un patient ou d'une patiente. Et vous mettez aussi en avant, enfin en tout cas, vous acceptez d'être ému aussi et de voir cette momie avec les émotions qui peuvent vous traverser, vous, au moment où vous travaillez à la restaurer.
Leur cadeau.
Je pense qu'il faut les accueillir, ces émotions, parce que on est dans une discipline, la restauration, qui est très scientifique, très cadré, avec un code de déontologie, des pratiques extrêmement normées. Et quand moi j'ai commencé à vouloir appliquer cette méthode en fait au reste humain, ce qui n'était pas encore très très développé à l'époque, je me suis retrouvée dans cette démarche un peu paradoxale d'appliquer une gestuelle très technique, très construite, et d'essayer dans le même temps de vouloir remettre en avant cet aspect humain. Et puis d'être aussi traversé par des fois un certain nombre d'émotions, parce qu'il y a des corps qui sont assez dérangeants pour certains, d'autres qui sont admirablement conservés et qui sont d'une beauté vraiment fascinante. Donc voilà, plein de choses qui n'ont pas forcément leur place, qu'on n'assume pas forcément, parce qu'il y a de la place pour la délectation au musée sur les œuvres d'art, mais se délecter par exemple d'une belle momie, c'est encore un petit peu ambigu, un petit peu mauvais genre, je dirais. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'il faut intégrer. Et puis dans la transmission qu'on veut faire par rapport au public qui s'intéresse à ce type de collection, c'est aussi une manière de faire réfléchir à la présence de ces corps. Le musée, c'est quand même le seul endroit où on peut être au contact d'un cadavre, stricto sensu, et dans un cadre avec des distances, des vitrines, des explications, donc un cadre intellectuellement et émotionnellement relativement sécurisé, mais qui n'exclut pas pour autant des émotions qu'on peut avoir, des discours qui se lâchent sur le rapport à la mort, des anecdotes sur un vécu, sur plein de choses. Donc ça peut être le support de belles rencontres et puis surtout d'expression de sentiments, effectivement.
Alors si on essaie dans ces deux parcours, ces expériences professionnelles qui sont les vôtres, d'en extraire une, par exemple Juliette Caz, est-ce que vous avez un moment comme ça déterminant, disons un jour, un enterrement, des obsèques qui vous ont brusquement fait comprendre quelque chose, ou est-ce qu'il y a un exemple fort? Parce qu'on imagine un peu que pour le personnel qui travaille dans le monde funéraire, il y a une routine, malgré tout, qui s'instaure, il y a une sorte de cadence comme ça, mais brusquement, il y a certaines fois, les choses sont un peu déviées, quelque chose se passe d'inhabituel et de saisissant. Est-ce que ça vous est arrivé ?
Oui, et d'ailleurs, ça a été l'objet ensuite de réflexions pour créer des vrais protocoles autour de certaines problématiques. Moi, je sais que j'ai été très frappée lorsque j'ai eu mes premiers corps décomposés, pour le coup, très décomposé, voire des personnes noyées. Et en fait, je me suis rendu compte que l'humain que je voyais n'était plus un humain. Je ne pouvais pas reconnaître de visage, je ne pouvais absolument pas reconnaître. Et pour autant, il fallait là, pour le coup aussi, faire en sorte que le corps soit traité dignement, même si ce que je voyais n'était même pas humain, finalement. C'était
des restes.
Je peux même pas vous décrire, comme je dis souvent, l'imaginaire a du mal à décrire ce qu'on voit. Et à ce moment-là, je me suis dit, ces individus ne ressemblent plus à des humains. Par contre, il faut absolument qu'on mette, entre guillemets, les mains dedans, parce que pour replacer le corps, pour faire en sorte qu'ils puissent ensuite rentrer dans le cercueil, parce que parfois, on va les mettre dans des cases négatives, donc le corps va geler. Si le corps gèle, on peut pas le mettre dans n'importe quelle position, sinon il re-rentre pas dans le cercueil ensuite. Ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, cette question-là c'est ce qu'il y a de pire dans ce qu'on peut voir dans nos métiers. Pour autant, il faut s'y confronter. Et ça a été très marquant, moi, où je me suis dit, là où on a un peu l'idée que les professionnels du funéraire essayent de se cacher de l'odeur de la mort qui nous colle à la peau, qui nous colle aux cheveux, et ça, c'est une réalité. Moi, je me suis dit, pour bien faire mon travail, il faut absolument que j'accepte cette odeur de la mort. parce que grâce à ça, en fait, je vais plus loin dans mon travail et aussi ça m'aide à déterminer certaines choses dans ma prise en charge. Et donc, plutôt que de repousser ce phénomène naturel, moi, je l'ai complètement embrassé.
Vous l'avez embrassé, vous l'avez intégré, mais néanmoins, lors des obsèques, il n'y a pas d'odeur. Je veux dire, on fait en sorte que quelque chose, que cet aspect soit totalement évacué. Mais c'est vrai qu'il est important de le connaître pour mieux comprendre après ce qui s'accomplit dans le rituel.
Oui, et puis on a des corps aussi où on peut avoir des odeurs et on sait, voilà, est-ce qu'on va orienter vers un soin de thanatopraxie, est-ce qu'une toilette suffit. L'odorat à l'admission d'un corps, c'est très très important à mon sens, comme tous les autres sens justement pour faire ce prédiagnostic, on va dire, de ce qui va être bon pour le défunt. Par contre, même si on essaye d'annuler les odeurs, malheureusement ça arrive, on a des défunts dans des salons qui vont commencer à sentir, même si toutes les précautions ont été prises, parce que chaque corps est différent et au bout d'un moment ça nous dépasse aussi, on peut pas tout anticiper.
Mais j'ai demandé un jour à un spécialiste de la mystique à quoi ressemblait l'odeur de sainteté, il m'en a donné une définition puisqu'il avait rencontré des cas. L'odeur de la mort, comment vous la définiriez?
Oh là, alors, justement, c'est une question qui est intéressante. La plupart des gens qui sont confrontés la première fois reconnaissent cette odeur et voilà, c'est une fois qu'on l'a senti, une fois
reconnaissent
c'est bon.
Reconnaissent cette odeur,
ah bah,
c'est vrai.
Ça, on sait que c'est pas bon, quoi. Vraiment, ça frappe. Alors, il y a plusieurs théories, mais ce qu'on a, on a remarqué, en fait, que cette odeur de la mort, des fois, elle nous bloque ensuite pour manger certains aliments.
Ah oui?
Oui. Moi, je sais que, par exemple, même si ça, on peut pas dire que ça ressemble, mais il y a quelque chose qui m'y faisait penser. Par exemple, les sauces yakitori, vous voyez, ou certains blancs d'Inde sous vide. Voilà, il y a des odeurs, des choses que je ne pouvais plus manger quand j'exerçais mon métier, parce que ça me faisait penser à ça. Alors qu'en fait, c'est bien pire, mais ça joue quand même sur notre cerveau. Hein.
Céline. J'imagine, leur cadeau, que vous n'êtes pas tout à fait dans ce même type d'odeur, si on reste sur ce sens en particulier.
Alors sur l'odeur, c'est pas les mêmes odeurs, ça c'est sûr, mais c'est drôle parce que ça sent, les momies sentent en général assez fort, une odeur que moi j'identifie comme des résines, des baumes, des matériaux qui vraiment sont très rémanents, puisque des millénaires après, on a encore ces odeurs extrêmement fortes, et la plupart des gens qui rentrent dans l'espace de travail où je suis, ils sont toujours... avant même de voir le corps sur lequel je travaille, sont toujours interpellés par les odeurs. Donc, c'est des choses, moi, qui me permettent aussi... je travaille beaucoup avec mes sens, en fait, avec l'odorat, avec le toucher, évidemment, même avec l'ouïe, parce que quand je tapote les surfaces, j'entends aussi les cavités, les choses comme ça. Donc, quelque chose, il y a une part très sensorielle dans mon travail. Et les odeurs sont aussi un indicateur assez marquant. Pour vous donner un petit exemple, j'ai souvenir d'une momie que j'étais venue expertiser dans un musée à Toulouse, et en ouvrant la caisse de la momie, ça sentait l'alcool. Alors là, on éclate de rire avec la conservatrice, parce que c'était une momie égyptienne, tout ce qu'il y avait de plus classique. On se dit, c'est pas possible, une momie qui sent l'alcool. Enfin, je vous laisse imaginer les blagues qui en ont découlé. Et en fait, en regardant un peu plus près, on s'est rendu compte que c'était les mousses d'emballage qui commençaient à se dégrader, et c'était elle qui dégageait des composés qui sentaient l'alcool. Donc, ça fait partie des éléments d'expertise utiles.
Alors, parmi les moments forts de votre expérience, leur cadeau, il y a le cas de Stégé Mengaou, que vous citez.
Ah, c'est déjà Mengaou.
Voilà, je vous prie d'excuser ma prononciation approximative. Est-ce que vous pouvez nous en parler de Stégé Mengaou?
Alors, c'est déjà Mengaou.
C'est déjà Mengaou.
Une momie égyptienne qui est conservée au musée de Picardie à Amiens et qui a fait l'objet d'une grande campagne de restauration qui a été. Piloté par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, donc qui est un laboratoire du ministère de la Culture en partenariat avec le musée de Picardie. Et donc, il y avait les deux cercueils de cette momie, donc deux cercueils égyptiens anthropomorphes, polychromes, magnifiques. Et puis, le corps de cette femme qui était conservé depuis le 19e siècle dans une vitrine assez kitsch en forme de cercueil elle-même, donc vraiment le goût d'une époque, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc l'enjeu de cette restauration, c'était de la sortir de cette vitrine dans laquelle elle était complètement comprimée, et puis de faire un petit peu le point sur son histoire, comprendre les différentes manipulations dont elle avait été l'objet. Et notamment, il y avait toute une poudre blanche qui était à l'intérieur de cette vitrine cercueil qui était un petit peu inquiétante. Et après un peu de recherche et d'analyse, on s'est rendu compte que c'était de la chaux, en fait, qu'au XIXe siècle, ils avaient déposé le corps sur un espèce de tapis de chaux, justement pour éviter les problèmes de moisissure et puis d'attaque biologique, on imagine. Et donc, tout l'enjeu a été effectivement de la ressortir, de lui redonner un état de présentation digne de cette dame très ancienne. Et donc voilà, il y a une forme de toilettage dans les règles de l'art pour pouvoir la présenter au public aujourd'hui à Amiens.
Alors ça, c'est donc cette personnalité dont je ne répéterai pas pour l'écorcher le nom, mais plus facile à prononcer, il y a ce que vous appelez aussi la momie de Fougère.
Ah, la momie de Fougère, oui, tout à fait. Vous l'avez trouvée, la momie de Fougère.
Alors, parlez-nous de la momie de Fougère.
Ben ça, c'était une sacrée expérience, la momie de Fougère, puisque c'était une momie qui a eu toute une histoire d'être amenée en France à la grande époque des tours en Égypte après l'expédition napoléonienne. Oui. Et puis qui, après un parcours de grenier, de mairie, en cave de musée, avait fini au cimetière de Fougères. Donc elle avait été stockée un temps dans le vide sanitaire du petit bâtiment qui était destiné à accueillir les cercueils en attente de sépulture. Et donc via un érudit local passionné d'égyptologie qui m'avait contacté, et puis avec l'aval des archives de la ville, on a procédé à une étude de cette momie, donc qui a consisté à la préparer pour l'emmener passer un scanner à l'hôpital de Fougères. Et donc l'adresse de cette vieille dame étant au cimetière, le travail s'est fait in situ. Donc c'était un petit peu particulier de travailler à côté des arrosoirs de l'accueil du cimetière, et puis de voir les personnels des pompes funèbres qui passaient un coup d'œil à la porte, parce que évidemment ça s'est su très vite dans le cimetière que la momie avait été sortie. Donc j'avais des visites assez curieuses et très intéressées. Oui. Et puis de se retrouver à 6h du matin à charger la momie dans le camion pour l'emmener à l'hôpital avec la brume par-dessus les tombes. C'était un moment quand même assez surréaliste de ma carrière. Laurent Polleret pour nous accueillir au Champ des Morts. Alors, on parle, Céline Duchesnay, depuis le début de cette émission d'expérience professionnelle.
Oui, et une des autres expériences professionnelles de Juliette Cazes, c'est d'écrire des livres, puisque vous en avez écrit, autant que je sache, au moins 5. Et alors, parmi les livres que vous avez écrits, il y en a un qui s'appelle « Momie ». Donc je me demandais s'il existait en France aussi une tradition de momie, parce qu'on associe toujours la momie à l'Égypte, mais est-ce que c'est une tradition qui est présente dans d'autres pays et en France, par exemple ?
Alors,
Juliette Cazes.
On va essayer de sortir de l'imaginaire des momies égyptiennes, hein, parce que
c'est difficile.
Voilà, c'est très difficile. Mais voilà, il va falloir en sortir. En France, on va distinguer deux types de corps conservés. Pour le coup, là, je vais utiliser plutôt cette expression-là. D'une part, bon, on a des momies dans des cryptes, dans certaines églises, etc. Mais là, ce sont des momies naturelles, donc on va les exclure de facto parce qu'il n'y a pas de geste humain dessus. Hein. C'est la nature qui a fait son travail. Mais bon, on en a qu'on peut voir dans des cryptes.
À Palerme, à Toulouse. Toulouse, au Mexique.
On avait à Bordeaux aussi.
Alors oui, à Bordeaux, à Saint-Bonnet-le-Château. Enfin voilà, il y a plusieurs cas. Il y en a eu aussi en Ardèche qui ont été retrouvés. Bon là, c'est en général ça fait écho à des cimetières qui ont été délocalisés ou des choses comme ça, et donc on a retrouvé des corps naturellement conservés. Bon, celles-là on va les exclure. Par contre, sur des corps qui ont été, conservés volontairement. Donc là, on n'est pas toujours sur une volonté rituelle. Donc là, je vais préciser. On a évidemment des traces d'embaumement sur les périodes médiévales Renaissance. Donc là, surtout sur des personnes qui avaient les moyens de pouvoir être traitées comme ça. Donc ça se lie au niveau des cercueils. Voilà, on peut avoir des cercueils en plomb avec des corps qui, là, pour le coup, ont des traces de découpe ou des choses comme ça, donc qui sont étudiées bien entendu par les archéo-anthropologues et les anthropologues. Et sinon, on a, alors moi je m'intéresse aussi à la partie 19e siècle, au-delà de ça, on a des cas, je pense par exemple à une collection que je cite extrêmement souvent qui est celle du musée d'Allard de Montbrison, où on a un cas de momie 19e en fait, à l'égyptienne, avec des bandelettes, sauf qu'en fait c'est une fausse momie, c'est une momie qui a été fabriquée au 19e siècle par des scientifiques curieux qui avaient envie de comprendre comment se déroulait la momification égyptienne, en essayant eux-mêmes, avec probablement des corps qu'ils avaient récupérés d'une façon plus ou moins légale. Donc on a évidemment des traces de conservation volontaire de corps à différentes périodes en France, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, en général, c'est pas du tout quelque chose qu'on imagine. Mais encore une fois, dès qu'on a une conservation volontaire, on est sur des strates de la société, là, pour le coup, qui avaient vraiment les moyens.
Alors là, dans une approche, je le répète, scientifique, professionnelle, mais on est à mauvais genre, donc l'imaginaire va, à 20h38, reprendre ses droits.
On va évoquer
un petit peu, voilà, l'imaginaire fantastique lié aux morts et aux momies, avec notamment un extrait de ce célèbre classique qui fut longtemps dans notre générique, La momie de Karl Freund avec Boris Karloff.
The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. There's nothing on earth like the mummy.
You will not remember what I show you now. And yet I shall awaken memories of love and crime and death.
Voilà un générique avec un rire que les auditeurs de Mauvais Genre connaissent bien. Alors Cadeau, comment vous percevez tout cet imaginaire extrêmement déjà séculaire, abondant, varié, qui s'est constitué autour des momies, puisque les premiers textes sur les momies, textes fantastiques de Gautier, ça date quand même du 19e siècle, et on va jusqu'à Walking Dead, les zombies, même les zombie walk qui sont organisés par certaines municipalités pour distraire les administrés. Comment vous recevez cette culture carnavalesque de la mort ?
Ben, ça fait partie de l'environnement. Enfin, après, voilà, on a chacun notre imaginaire. Et puis, il y a cet imaginaire collectif autour des morts. Et puis, voilà, toute la cinématographie, la littérature, etc., qui font partie, pour certains, de mes livres de chevet. Ah. Et cet imaginaire, il dit beaucoup sur la réception, le frisson, à la fois la fascination, la terreur, enfin c'est quelque chose de très dense au niveau des affects. Et c'est aussi quelque chose que je mets un petit peu à distance, parce que dans mon travail, je m'en rends compte aussi que cet imaginaire, il habite vraiment chacun de nous. Et puis, comme je disais, des gens qui passent me voir et qui font toujours une petite blague sur la momie qui va se réveiller, sur une petite allusion à ces grands classiques de la littérature. Donc c'est toujours un petit clin d'œil en fait qui est un peu présent dans l'environnement à n'importe quel moment de ce genre de travaux, quoi.
Juliette Caz.
Moi, j'adore. Hein. J'adore tout ça. J'adore les films, j'adore les livres. Et c'est vrai que si je pouvais avoir une momie qui se réveille pour me dire des choses, j'adorerais. Mais parce que ça suit aussi quand, que ce soit avec les, bon, avec les morts récents, c'est différent. Mais quand je vais dans des musées et j'ai la chance qu'on m'amène dans les réserves pour me présenter des corps, parce que j'estime vraiment qu'on me fait une présentation et j'en suis extrêmement honorée, à chaque fois, je me dis, oh là là, si elle s'est réveillée, ça serait quand même incroyable. Elle aurait tellement de choses à nous dire. Et en fait, ça m'a jamais quittée. C'est ma passion d'enfant et j'adore ça. C'est évidemment que ça peuple mon travail et même pour écrire mes livres, c'est très souvent que j'écoute les bandes son des films, de films fantastiques, de choses comme ça.
Quelle est votre cinéphilie? Vous êtes plutôt tourné vers la Universal, les vieux films en noir et blanc, on vient d'entendre un classique des classiques. Et comment trouvez-vous aujourd'hui les productions récentes où effectivement la technologie est telle qu'on peut reconstituer au plus près l'état d'un corps putréfié,
Moi, j'aime bien les vieux films. Hein, j'aime bien quand que ça s'inscrive aussi dans un contexte, une époque. Le film d'horreur exutoire ou qui amène un imaginaire de rêve, etc. Par contre, c'est vrai dans les productions actuelles. Moi, je suis toujours très frappée de voir qu'on a une continuité du cadavre féminin, notamment toujours un peu érotisé, qui fait suite aussi à ce qu'on peut voir dans les collections d'anatomie. Je pense au cire anatomique, par exemple, au Vénus, etc. Où on a un côté très très de femme quand même charmante. Défunte, et c'est vrai qu'il y a une esthétisation du cadavre quand même, hein. C'est jamais très forcément réaliste. Et moi d'ailleurs, on m'appelle pour me faire travailler pour rendre aussi des cadavres réalistes dans des productions filmées. Donc c'est bien qu'il y a un besoin de se confronter au cadavre, en tout cas pour essayer de le restituer au mieux. Encore une fois, c'est très difficile. Moi je suis très très adepte des films sur ces sujets-là, et dès qu'il y a des corps anciens, récents, j'ai l'œil qui traîne quand même.
Ah, Céline.
L'Orcado, il y a aussi un des grandes thématiques autour des momies, c'est la malédiction. Alors, est-ce que la malédiction qui est liée aux momies est quelque chose à laquelle vous êtes confrontée dans le regard des autres, peut-être, plutôt que dans la solitude de votre travail ?
L'Orcado.
Alors oui, inévitablement, dès qu'il m'arrive quelque chose, une coupure avec un scalpel ou autre, on me renvoie toujours à la malédiction. C'est un peu l'explication facile. Bon, jusqu'à présent, je dois pas mal les traiter parce que je m'en sors à peu près bien et j'ai pas eu de gros pépins depuis que j'exerce en tant que restauratrice de restes humains. Donc oui, ça reste toujours la blague récurrente, ce truc de la malédiction, mais c'est aussi un côté un peu superstitieux. On voit aussi à quel degré les gens sont plus ou moins sérieux en fait avec ça, parce qu'il y a quand même des gens qui y croient et qui ne veulent pas approcher les momies ou ne sont pas à l'aise, même dans un contexte professionnel. Et c'est des sensibilités à respecter aussi.
Alors, ce livre, parmi les livres que vous avez publiés, Juliette Caz, il y a donc ces pionnières du monde funéraire, « La mort a changé leur vie », qui est une sorte de galerie de portraits de femmes qui sont intervenues de manière, on peut dire, pionnière, voire révolutionnaire dans l'univers funéraire, Céline, et qui ont apporté une présence. Alors, on féminise spontanément et naturellement la pratique funéraire. Il y a les pleureuses qui viennent accompagner la douleur de la famille, il y a les laveuses des corps qui viennent les toiletter, les préparer, il y a les gardiennes des morts. Bernanos en a mis une en scène dans la nouvelle histoire de Mouchette, qui est un peu une sorte de vampire psychique par ailleurs. Donc il y a toute une présence féminine, mais quand même, Céline, on se rend compte que ça, c'est la tradition, peut-être plus rurale qu'urbaine, mais à part ça, c'est limité.
On s'était aussi posé la question je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission, François Angelier, du féminin de croque-mort, quand j'avais interviewé Thérèse Tailly, qui fait du stand-up autour de la mort, et qui est croque-mort elle-même, et elle disait croque-morette. Alors je ne sais pas si ce terme de croque-morette, Juliette Caz, vous convient.
Nous, on utilise croque-morito.
Croque-morito.
Oui. c'est un peu exotique.
Ah, c'est pas mal, mais ça fait, oui, on prendrait bien un peu de croque-marito.
Avec mes amis, en tout cas. Oui, bah, après, c'est vrai que moi, je m'offusque pas de croque-mort. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que je trouve que quand on est entre croque-mort, on n'a pas de problème à s'appeler croque-mort. Par contre, quand c'est quelqu'un extérieur à notre milieu, des fois, ça peut un peu nous froisser. Mais c'est vrai que, voilà, c'est, non, bah, croque-mort, moi, ça me va, hein. Juste comme ça.
En tout cas, vous aviez envie, avec ce livre pionnière du monde funéraire, de retrouver des figures féminines qui, avant vous, ont pu, avant vous et les autres femmes qui travaillent dans le monde funéraire, parce que vous êtes beaucoup plus nombreuses maintenant, mais qui ont été pionnières en leur manière, en s'occupant des morts de manière plus officielle.
Oui, tout à fait. Ça a été un travail pas évident parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses pas documentées, notamment concernant des femmes qui exerçaient dans l'espace domestique. Donc là, on a quand même beaucoup d'éléments qui n'ont pas été forcément racontés, on va dire. Pour autant, c'est vrai qu'on a aussi une image des pompes funèbres d'hommes, de porteurs hommes, pendant très longtemps qui a été assez majoritaire, justement. On dit bah, croque-mort, quoi. Et c'est vrai que j'avais envie, là, pour le coup, d'écrire ce livre, alors déjà pour moi, par plaisir, mais surtout pour aussi peut-être d'autres femmes qui exercent et qui se disent, bah voilà, avant moi, il y avait qui ? Quelle est l'histoire de ma discipline, finalement, professionnelle ? Et il faut rappeler quand même que les métiers du funéraire sont encore très ostracisés, très marginalisés, mal considérés dans la société. Les payes vont avec, le management va avec. Donc, pour moi, ce livre, c'était aussi une façon de dire, voilà, vous êtes là, vous avez choisi d'être là, et aussi peut-être de contrer ce que vos proches vous disent du fait de travailler avec les morts, comme quoi c'est subversif, et donc de trouver des exemples historique en tout cas, pour appuyer tout ça.
Oui, alors derrière les exemples historiques, il y a Elisabeth Thorne qui s'est affrontée toute seule et d'une manière un peu improvisée à l'immense foule des morts de la bataille de Gettysburg aux États-Unis pendant la guerre de sécession. Il y a Jeanne Garnier, qui est une femme d'œuvre lyonnaise, qui a créé un hôpital où on accompagnait l'agonie des pauvres et l'agonie des nécessiteux. Et il y a l'extraordinaire Frances Glester Lee, Céline.
Ah,
alors,
oui, on l'aime.
Ça, là, c'est du mauvais genre à l'état brut, là, parce qu'elle a marié quand même le goût des maisons de poupées avec
les reconstitutions de scènes de crime à travers des dioramas, oui, extraordinaires. Mmh. Oui, c'est une femme aussi extraordinaire, et ça fait du bien de lire, de retrouver son nom en tout cas dans votre livre. Et moi, l'autre question aussi que je me posais, Laure Cadeau, c'est finalement, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'éducation à faire de la mort? Et je me demandais, parce que vous avez quand même passé un an à la Villa Médicis à travailler, donc sur votre avec un peu de recul comme ça, sur votre métier de restauratrice, est-ce que cette année que vous avez passée à la Villa Médicis vous a fait réfléchir finalement à cette éducation de la mort que l'on pourrait faire? Parce que quand même, la mort, c'est quand même bien quelque chose aujourd'hui que l'on essaye de mettre de côté coûte que coûte, quitte à croire qu'on est tous immortels.
Leur cadeau.
Oui, tout à fait, parce que on est toujours un peu dans un certain malaise avec ces collections dans les musées. Il y a un côté pas toujours très assumé. Enfin, c'est André Langanet qui le dit très bien, qui dit que c'est des collections qui existent indépendamment de la volonté de ceux qui ont la redoutable mission de les conserver. Je pense que ça veut tout dire sur cette difficulté. Et les professionnels sont toujours un peu en quête de justification par rapport à l'exposition, par rapport à plein de choses. Et donc, pendant mon année à la Villa Médicis, l'année passée, j'ai pu réfléchir aussi à cette problématique de l'exposition, de son intérêt. Moi, il y a longtemps que je suis convaincue que ce contact avec le corps mort, voilà, comme je disais tout à l'heure, dans ces conditions très particulières qui sont celles du musée, il apporte des choses, il apporte des questions, il apporte des réponses, une réflexion, un dialogue. Et c'est en travaillant sur les travaux d'une collègue philosophe italienne, justement, qui a tout un séminaire sur l'éducation à la mort, donc qui est plutôt destiné à un public de médecins, de soignants, que je me suis dit, mais en fait, cette notion d'éducation à la mort, elle s'applique tout à fait au musée. Et le musée, je pense, peut avoir un rôle dans ce contact, cette réflexion, cette manière d'expliquer, mais aussi de discuter, de désamorcer voilà, certaines... certaines angoisses, certaines difficultés par rapport à ça. Ça peut aussi être un support, en fait, pour tout ça. Donc oui, cette question de l'éducation à la mort, elle me semble importante.
Dernière question, leur cadeau de Laurent Polleret. Est-ce qu'on a la possibilité de se faire momifier? Si Laurent Polleret souhaite être momifié, est-ce qu'il peut...
On en discute en antenne, je peux lui faire un devis.
Voilà, donc vous avez un client. Merci infiniment, leur cadeau. On rappelle votre entretien paru dans la revue 21. Merci Juliette Caz. On signale donc vos 4 ouvrages aux éditions du Trésor, et nommément Pionnière du monde funéraire, La mort a changé leur vie. Juliette Caz vous signale qu'elle peut se charger de l'éviscération et de recoudre également. Donc vous avez trouvé les gens nécessaires pour accomplir vos saintes et ultimes volontés. Maintenant, l'heure est venue de l'almanach de l'étrange.
L'almanach de l'étrange s'intéresse ce soir à un mystère, celui d'un plancher gravé. L'histoire a commencé il y a un peu plus de 30 ans de cela, en 1993, quand une ferme située dans la campagne du Béarn a été mise en vente suite au décès de sa propriétaire, Paul Crampil-Broucaret. Les visiteurs intéressés par la maison ont au fait de s'interroger sur le plancher de l'une des chambres sur lequel avait été gravé à la perceuse et au ciseau un texte aussi étonnant qu'hallucinatoire. Une sorte d'incantation testamentaire écrite en lettres majuscules sur une 60aine de lignes des deux côtés du lit du frère de la propriétaire décédée, Jean Crampil-Broucaret, né en 1939 et mort en 1972. Cette découverte étrange arriva aux oreilles d'un neuropsychiatre de Pau nommé Giroux, qui fit l'acquisition du plancher et qui ensuite mena l'enquête pour essayer de reconstituer le parcours de Jean Crampil-Broucaret et le contexte de création de ce texte. Les éléments biographiques qu'il a patiemment récoltés dressent une vie marquée par les épreuves, avec des traumatismes comme un père autoritaire et violent qui s'est pendu dans la maison, la guerre d'Algérie, en tant que soldat, une mère que Jean et sa sœur refuseront d'inhumer au cimetière du village et qui sera enterrée sous l'escalier de la maison en 1971. Dans les mois qui suivront la mort de sa mère, Jean gravera son texte dans des conditions qui restent totalement inconnues et mourra à son tour à l'âge de 32 ans.
La religion a inventé des machines à commander le cerveau des gens et bêtes. Et avec une invention à voir, notre vue à partir de rétine de l'image de l'œil abuse de nous. Santé, idée de la famille, matériel, bien, pendant sommeil, nous font toute crapulerie. Nous, Jean, Paul, sommes innocents. Nous n'avons ni tué, ni détruit, ni porté du tort à autrui. C'est la religion qui a inventé un procès avec des machines électroniques à commander le cerveau. Sommeil, pensée, maladie, bête, travail, toute fonction du cerveau nous fait accuser de crimes que nous n'avons pas commis.
Que voulait dire Jean Crampil-Broucaret? À qui s'adressait-il? Pourquoi avoir écrit ce texte après le décès de sa mère et juste avant de mourir? Pourquoi l'avoir gravé sur son plancher? Autant de questions qui restent sans réponse et qui font toujours couler beaucoup d'encre, car le plancher de Jeannot, c'est ainsi que l'objet a été nommé par le docteur Giroux, a donné lieu à de multiples interprétations, fantasmes, projections, que ce soit dans des romans, dans la presse, qui n'ont cherché qu'à en augmenter le tragique. Après avoir été vendu, le plancher de Jeannot a fini par être transféré à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et depuis septembre 2024, il est visible, après une longue et minutieuse restauration, au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne. Et je vous engage vivement à aller le découvrir car l'exposition qui lui est actuellement consacrée présente le plancher et la vie de Jean Crampil-Broucaret, loin des affabulations ou même de diagnostics médicaux peu valables 50 ans après la mort d'une personne. La réponse que propose Anne-Marie Dubois, commissaire de l'exposition, c'est la pérennité de l'œuvre, une recontextualisation très humaine, aussi bien ethnologique que sociétale, de la vie de Jean, et le silence. Car il faut savoir accepter de ne pas avoir réponse à tout. Le plancher de Jeannot est à voir jusqu'au 27 avril. L'exposition sera suivie d'une deuxième de septembre à janvier 2026. Quant au catalogue, publié aux éditions Infine Éditions d'Art et du Musée, il permet vraiment d'entrer dans le monde de Jean sur la pointe des pieds avec une grande finesse d'analyse et une juste ouverture de l'esprit.
Complément bibliographique ce soir, je signale à nos invités et à nos auditrices et auditeurs un livre qui n'est pas encore paru, qui le sera le 14 février, de Vincent Wackenheim. Ce livre, La mort dans tous ses états, modernité et esthétique des danses macabres, c'est un épais volume de 944 pages qui contient 1000 illustrations couleurs et qui n'est vendu que 39 €, profitez-en, et qui est consacré à toutes les danses macabres repérées en Europe de 1785 à 1966. Alors c'est extraordinaire puisqu'on a de la danse macabre, Céline, une vision strictement médiévale, peut-être un peu de l'époque moderne, l'époque avant la guerre de 30 ans, les guerres de religion. Mais là, Wackenheim a eu la très bonne idée d'aller chercher les danses macabres là où on considérait qu'elles avaient disparu. Et c'est tout à fait extraordinaire parce qu'il voit qu'elle, cette espèce de figuration accompagne les soubresauts de l'histoire européenne, que ce soit bien évidemment la Révolution française, l'Empire, la Première et la Seconde Guerre mondiale, et qu'on ne cesse de danser la mort, quels que soient les siècles. Et c'est un livre absolument formidable, et je crois d'ailleurs que nous inviterons dans une future émission son auteur.
Eh bien oui, faisons danser les morts, mais dansons aussi en tant que vivants. Je pense que c'est quand même aussi une joyeuse et heureuse perspective.
Vincent Wackenheim, donc La mort dans tous ses états, modernité et esthétique. Ça paraît le 14 février aux éditions L'Atelier Contemporain. Puis je signale bien sûr le 8 février, nous évoquerons le festival de bande dessinée d'Angoulême avec notamment un entretien en compagnie de Gou Tanabe, le grand mangaka connu pour les parutions Queen, donc pour ses adaptations de Lovecraft. Eh bien, le numéro 31 de la revue Atome, la culture manga, propose un dossier énorme et extrêmement fouillé sur Lovecraft, vu par les mangaka, la culture japonaise, les récits fantastiques et la science-fiction. C'est à ne pas rater. Donc, Atome numéro 31, Lovecraft dans l'antre de sa folie, Cthulhu au Japon, quand la pop culture nippone s'empare du mythe. Merci Juliette Caz.
Merci.
À se revoir pour d'autres aventures. Merci Laure Cadeau.
Merci à vous.
Et puis vous aussi, bah écoutez, à se revoir peut-être un jour à la lumière des momies. Merci Céline Duchesnay pour cette émission. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, François Saint-Jour, Claire Poissignon, Céline Duchesnay, Claire Martin-Dugard et François Angelier vous remercie d'avoir écouté Mauvais Genre. La semaine prochaine, je recevrai Corentin Durand pour Sarabande X au Seuil et Paco Ntielman, avec qui nous évoquerons David Lynch.
Vous êtes bien sur France Culture.
Une polarisation croissante entre les femmes et les hommes.
Hervé Gardette.
C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité, en particulier chez les jeunes, où les filles sont de plus en plus féministes et les garçons de plus en plus masculinistes. Est-ce à dire que la guerre des sexes est à nouveau déclarée ? Nous en débattrons dimanche en compagnie de Bertrand Badie, Magali Lafourcade, Didier Lesky et Marc Lazare.
L'Esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. L'intelligence artificielle est une révolution technologique. Elle génère beaucoup d'inquiétudes et de fantasmes. Comment est-elle née ?
Comment automatiquement améliorer les paramètres d'un programme pour qu'il se perfectionne à sa tâche ?
Le mathématicien Cédric Villani nous embarque dans l'histoire d'une grande aventure scientifique, celle de l'IA. Les Contes des Mille et Une Sciences, saison 4. L'intelligence artificielle utopie dystopique par Cédric Villani, réalisation Thomas Duterre, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, les fictions.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans les programmes de fiction avec Marine Nimier, dont le dernier roman « Le côté obscur de la reine » vient tout juste de paraître au Mercure de France. Ce soir, « Chassé-croisé », composé de 4 textes de Marine Nimier dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy.
Non, vous n'êtes pas prête.
Merci.
Chassé-croisé de Marie Nimier. Réalisation Christine Bernard-Sugy. Avec Martin Amic, Anouk Grimbert, Jean-Pierre Malot, Sabrina Kourougli, Garance Clavel. Chassé-croisé, les patins, avec Martin Amic.
J'ai peur. Peur de décevoir, peur de tout mélanger, peur du trou de mémoire, peur de la mauvaise chute, peur de... La peur est une impression. La peur est un dysfonctionnement du système nerveux. Est-ce que ta langue a peur ? Non, ta langue n'a pas peur. Est-ce que tes os ont peur ? Non, tes os n'ont pas peur. C'est le plexus qui se resserre. Il faudrait bâiller, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je bâille ? Qu'est-ce que tu vas penser ? Que je m'ennuie ? Que tu m'ennuies ? Penser à des choses très simples. De l'air froid